OK, 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est bon. Ça me semble bon. Ici, la voix de la librairie Québec. Mon nom est Catherine Doré et je souhaite la bienvenue aux auditeurs de Radio Fiat Lux et à ceux de CKIA qui nous écoutent le mercredi à 15h30. Aujourd'hui, on va parler d'abord du bonheur en compagnie de Patrick. Et ça tombe bien qu'on parle du bonheur aujourd'hui parce que, je ne sais pas si vous savez, mais cette semaine, c'est la semaine de la santé mentale. C'est quoi le lien entre le bonheur et la santé mentale? C'est qu'on définit souvent la santé par son contraire. Hein, on dit que la santé, c'est de ne pas être malade. Et le bonheur, c'est un petit peu la même chose. Le bonheur, c'est de ne pas être malheureux. Et il se trouve qu'être heureux aujourd'hui, on dirait que c'est quasiment un devoir moral. Et ça aussi, c'est un petit peu comme la santé. T'es gros, fais de l'exercice. T'es fatigué, repose-toi. T'as mal au ventre, mange mieux. Être heureux, c'est pareil. Tu files pas bien, loue-toi un film. Fais-toi plaisir. Prends des vacances. Achète-toi une bébelle. Prends des pilules s'il faut, mais fais quelque chose. Bref, t'es pas supposé être malheureux. De la même manière que t'es pas supposé être malade. Donc, le bonheur, est-ce que ça dépend de nous? C'est ce que Patrick va nous expliquer tout à l'heure. Ensuite, pour faire bonne mesure donc à cette réflexion sur le bonheur, on va un petit peu aborder la question du cynisme. Le cynisme est une posture particulièrement répandue aujourd'hui. Et c'est peut-être dû à cette obligation de bonheur. On va essayer de démêler un petit peu ça tout à l'heure. Il y a David qui va possiblement ajouter, comme il le fait d'habitude, son petit grain de sel dans la conversation ou son grain de poivre, dépendamment. On a aussi ce soir un groupe invité. On va s'entretenir avec deux des membres du groupe Sweetgrass, qui est un groupe de la scène musicale émergente, Alexandrine Rodrigue et Pierre-Antoine Tanguay. Ils vont nous donner aussi un aperçu de leurs activités de l'été. Et finalement, en dernière partie, on va parler de graffiti avec Will. Les tags et les graffitis font maintenant partie du décor urbain, à tel point que souvent on ne les remarque plus. Mais comment et quand tout ça a commencé? Et quels sont les différents courants de pensée qui ont traversé ce mode d'expression picturale? Alors Will va venir nous expliquer ça tout à l'heure en fin d'émission. Voilà pour le programme. On va débuter par une pause musicale comme on le fait à l'habitude. On va, avant d'accueillir Patrick et ses définitions du bonheur, on va écouter une pièce que Patrick a choisie justement. C'est une pièce de Pépé et sa guitare et ça s'appelle « Marchand de bonheur ».
Je suis un marchand de bonheur. J'ai commencé d'indépendant. J'en ai usé des semelles à courir après les belles ritournelles pour me rendre jusqu'au septième ciel. La musique pleine de couleurs, d'un bord les cégeps, puis ailleurs les salles, les festivals, les classiques dans un chac. Marchand, elles attiront d'acc sur le bord du lac, un feu pile 24 packs de black.
un tour de chaloupe, je t'embarque. Je vais t'improviser un spectacle. J'ai traîné ma guide dans un sac. Mets encore dans le chac, donne-moi une minute. On est parti. Je mets de la fantaisie dans vos cœurs. Ma guitare est un pinceau. Je change de teinte en tassant le capot. À la place de la toile, il y a un morceau.
Alors voilà, on est de retour avec Patrick. Bonjour Patrick.
Bonjour Catherine.
Alors tu vas venir nous parler du bonheur. Tu as fait une recherche aussi sur la question, mais avant de te donner la parole, j'ai fait une petite recherche moi sur Internet et j'ai trouvé une définition du bonheur qui nous est donnée par Nicolas Tonaillon, qui est rédacteur à Philosophie Magazine. Et lui, ce qu'il nous dit, c'est que le bonheur est un état de satisfaction durable et complet. Il ne se réduit donc pas au plaisir, qui est toujours bref et partiel. Mais si chacun connaît des moments de plaisir, tous n'atteignent pas le bonheur. D'autant qu'être heureux peut dépendre de la bonne fortune, qui est, n'est-ce pas, le sens premier du mot bonheur. Et pas seulement du mérite de celui qui cherche la félicité. C'est pourquoi le bonheur est davantage un idéal qu'une réalité. On appelle eudémonisme la doctrine qui considère que la quête du bonheur est le but des actions humaines et hédonisme celle qui vise le simple plaisir. Le bonheur relève à la fois de la psychologie et de la morale. On peut en effet se satisfaire d'illusions. Et c'est pourquoi l'imagination, nous dit-il, est la faculté du bonheur. Toi, Patrick, selon toi, c'est quoi le bonheur?
Bien, avant de rentrer dans ce que moi j'ai réfléchi sur le bonheur, c'est important, je pense, de faire un petit historique de pourquoi on parle du bonheur aujourd'hui. D'une certaine façon, définir le bonheur, c'est une tâche qui est vraiment difficile et que plusieurs philosophes ont tenté de faire depuis aussi loin que la nuit des temps, on peut dire. Mais si le sujet du bonheur est abordé depuis aussi longtemps, c'est vraiment au 18e siècle qu'il est devenu un sujet pris au sérieux. Par la plupart des philosophes, des écrivains, des intellectuels, comme Montesquieu, par exemple, Diderot, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire.
Ça faisait partie, donc, des notions du siècle des Lumières, de la Révolution des Lumières.
Exactement. Le 18e siècle aussi, ouais. Le siècle des Lumières, c'est aussi l'époque des grandes révolutions, la Révolution française et la Révolution américaine, par exemple. Et c'est très important, justement, de noter que le bonheur, ou plutôt la poursuite du bonheur, est inscrite en toutes lettres dans le texte final de la Déclaration d'indépendance des États-Unis.
Ah oui?
Oui, donc je vais citer l'extrait en question.
Oui?
« Nous tenons pour évidente, par elle-même, la vérité suivante. Tous les hommes sont créés égaux. Ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. » Donc okay. Ça, c'est tiré de la Déclaration d'indépendance américaine du 4 juillet.
C'est pas dans la Constitution américaine, mais c'est dans la Déclaration d'indépendance.
Exactement, oui.
OK, ah, c'est intéressant ça.
Oui. Donc, le bonheur à cette époque, c'est quelque chose de vraiment fondamental dans les réflexions en cours. Rappelons qu'à cette époque, justement, c'est aussi le début de la démocratie. C'est la fin des systèmes autoritaires et monarchiques. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois que tous les statuts liés aux anciens régimes autoritaires et monarchiques en vigueur en Europe, par exemple les nobles versus les roturiers, bref, que la démocratie est instaurée, que tous les individus ont les mêmes droits, que tous sont égaux et en tant qu'êtres libres, ils ont accès au bonheur. Le bonheur, finalement, est à portée de tous, contrairement, par exemple, à être millionnaire où l'argent, elle, est fini.
Ce serait une notion qui serait arrivée un petit peu en même temps que la liberté, l'idée de la liberté, l'idée du bonheur.
Oui, bien, c'est inscrit. Les deux se sont inscrites avec le début de la Constitution américaine, avec le début du monde américain,
oui.
En fait. On avait une terre libre, on a décidé... On a redéfini les normes, finalement, on a redéfini c'est quoi les termes de l'entente, du contrat social, et la liberté et le bonheur, comme je l'ai cité, correspondent en même temps.
C'est curieux, quand tu me dis ça, j'ai comme le sentiment que c'est comme si la liberté était un prérequis au bonheur.
Ben, j'ai cette impression-là aussi, c'est une fois que tous les gens sont libres, ben, ils sont libres d'atteindre le bonheur, de rechercher le bonheur finalement.
Oui, oui.
C'est un peu comme ça que je l'ai interprété aussi d'une certaine façon. Donc, comme je disais, c'est ça, le bonheur est à portée de tous. Donc, tout le monde peut être heureux, ou du monde, tout le monde peut rechercher le bonheur en toute liberté, justement.
Oui.
Rechercher son propre bonheur, puisqu'on parle de liberté individuelle. Donc, le bonheur aussi, c'est quelque chose qui est individuel, finalement.
Oui.
Si tout le monde recherche son propre bonheur. Mais si le bonheur, c'est un droit accessible à tous, on peut affirmer qu'aujourd'hui, le bonheur est non seulement un droit, mais c'est aussi un devoir. Tout le monde doit être heureux,
oui,
d'une certaine façon.
C'est un peu ce que je disais aussi dans mon introduction.
Oui.
C'est qu'on sent véritablement dans notre société, en tout cas, j'imagine que c'est pas seulement moi qui sens ça, c'est qu'on se doit d'être content, de bonne humeur, heureux.
Oui, parce que le bonheur, justement, c'est lié à la réussite. Quelqu'un qui a réussi, c'est quelqu'un d'heureux.
Oui.
Donc, d'une certaine manière, la société nous oblige à être heureux de par l'impératif de réussir. À être heureux, par exemple, parce que c'est accessible à tous. C'est une simple question de répondre aux standards, finalement, de la société. Tout le monde peut être heureux et ceux qui ont réussi dans la vie sont heureux. Donc, la réussite passe par la découverte du bonheur pour trouver son bonheur.
C'est-à-dire que la réussite serait la voie vers le bonheur?
Oui, et à l'inverse, le bonheur, ce qui est de réussir, c'est d'avoir trouvé le bonheur.
OK, finalement. Donc l'un se répond à l'autre. Oui,
exactement. On peut un peu interchanger.
Trouver le bonheur, c'est réussir, et réussir rend heureux.
C'est l'impression qu'on a aujourd'hui. tous les gens on associe toujours le bonheur à ceux qui ont réussi.
Oui.
Et à l'inverse, réussir, c'est avoir trouvé le bonheur, justement, parce que c'est ça la quête finale, c'est ça qui est accessible à tous, finalement. On le voit justement assez facilement dans la vie de tous les jours. Les gens heureux sont aimés des autres et les gens malheureux n'attirent pas nécessairement la sympathie. On les fuit. On veut toujours être avec les gens qui sont heureux, finalement. Donc, si on veut faire partie de la grande parade, si on veut faire partie de la société, le bonheur, dans ce cas-là, c'est vraiment un impératif. Il faut être heureux. Sinon, on est relayé dans les marges de la société.
Oui.
Des gens qui sont malheureux, finalement.
Il nous manque quelque chose à notre vie, quelque chose qu'on a raté, quelque chose qui nous a échappé si on n'est pas heureux.
Oui, exactement. Mais là, on a le droit au bonheur. On a le droit, tout le monde a accès au bonheur. Mais là, c'est là que je me suis questionné, finalement, sur c'est quoi le bonheur? C'est ça la question que je me suis posée. Donc, j'ai décidé de réfléchir à ça, c'est quoi le bonheur, ou plutôt aux formes de comportement qui mènent au bonheur. Parce que si tout le monde peut rechercher le bonheur, je me suis questionné sur c'est quoi les formes que peuvent prendre la recherche du bonheur.
D'accord.
Mais d'abord, il faut se donner une définition du bonheur. J'ai pris celle du dictionnaire, quelque chose d'assez classique, finalement. Selon le petit Robert, le bonheur, c'est un état de la conscience pleinement satisfaite, un état de bien-être, de béatitude ou encore un état de félicité.
Quand même. Ouais. ça a l'air gros dit comme ça.
Oui. Donc, à partir de cette idée-là, que le bonheur, c'est quelque chose qui se vit intérieurement, que c'est un sentiment, une émotion, j'ai tenté de construire une typologie du bonheur, mais je n'y suis pas vraiment arrivé. Ce que j'ai construit correspond davantage à un axe du bonheur, à un spectre qui se décline du bonheur absolu au malheur absolu, en partant de l'individu qui, lui, est le centre du bonheur. C'est en lui que le bonheur se vit, finalement.
OK, oui. C'est pas quelque chose qui est extérieur, là. C'est nécessairement quelque chose qui est intérieur.
Exactement,
le bonheur.
On l'a dit tantôt, c'est un état de bien-être, c'est un état de la conscience. Donc, ça fait partie vraiment de l'individu.
Okay.
Mais si le bonheur se trouve à l'intérieur des individus, justement, on sait tous que on est des animaux sociaux, finalement, par nature.
Mm-hmm.
On est soit tourné vers le monde ou soit tourné vers nous-mêmes dans notre rapport au monde, finalement. Soit qu'on se concentre sur notre personne ou soit qu'on est tourné vers le monde. Fait que c'est vraiment sur ces deux axes-là que j'ai décidé d'aborder la question du bonheur, finalement.
OK.
C'est ça. Fait que dans le fond, quand on est tourné plus vers nous-mêmes, c'est plus l'aspect biologique, finalement, ou psychique qui rentre en ligne de compte, qui vient influencer, en fait, notre rapport au bonheur. Puis l'aspect plus social vient aussi influencer notre rapport au bonheur. Donc, c'est les deux médiations, je veux dire, les deux choses qui influencent notre bonheur qu'on essaye de trouver dans la recherche. Donc, j'ai voulu y aller vraiment du sens commun. Je suis parti avec la première catégorie pour le bonheur. C'est l'expression, je suis parti de l'expression « imbécile heureux
». Oui.
L'imbécile heureux.
Heureux les creux.
Heureux les creux, oui. Imbécile heureux n'est-il pas à tout moment dans un état de bonheur absolu, dans un état de béatitude totale face au monde qu'il a devant lui? L'imbécile heureux est, pour ainsi dire, un être inconscient. Inconscient du monde dans lequel il vit, inconscient du regard des autres, mais aussi de sa propre personne.
Ouais.
L'imbécile heureux ne se soucie guère de sa condition. de sa place dans le monde, de son statut social. L'imbécile heureux ne se remet jamais en question. Il s'accepte tel qu'il est. Parce qu'il en est ainsi. Ainsi pour l'imbécile heureux.
Il y a quelqu'un qui se reconnaît dans la salle.
C'est ça, pour l'imbécile heureux, son état d'inconscience, c'est pas un défaut pour lui, loin de là. C'est ce qui lui permet d'être heureux à tous les jours, tout le temps. Donc, ne pas être conscient correspond pour lui à un état de bonheur absolu.
OK. Donc, le bonheur, ce serait l'inconscience.
D'une certaine façon, oui, okay. Pour lui, c'est l'inconscience du monde qu'il a face à lui, l'inconscience du regard des autres. Il ne se soucie pas du regard des autres.
Il y en a David ici qui vient d'être stimulé parce qu'on
oui,
a dit.
Avec ce que tu parles, ce dont tu parles sur les imbéciles heureux, moi j'ai trouvé une petite citation d'un certain Henry Havelock Ellis qui disait, à juste titre ou non, c'est selon, « L'asile d'aliénés est l'endroit où fleurit le plus d'optimisme. » C'est-tu beau ou c'est pas beau?
C'est très beau.
Mais ça correspond en gros.
Il n'y a pas seulement le bonheur qui mène à l'hôpital psychiatrique, il y a la dépression aussi, il faut quand même dire. Oui, continue.
Donc, c'est ça, ce que je disais, c'est que ne pas être conscient du malheur qui sévit dans le monde, aussi minime soit-il, par exemple, ne pas être conscient de sa propre condition par rapport aux autres, ou c'est ça qui fait qu'il est heureux. Comment quelque chose peut-il nous atteindre émotionnellement, autant du point de vue du malheur ou du bonheur, si on n'en est aucunement conscient?
Oui.
Donc, être heureux pour l'imbécile heureux, c'est pas un but, mais c'est bien un constat, c'est un fait, il est heureux. Oui. Peu importe la situation, le moment ou encore l'endroit dans lequel il se trouve.
Oui.
Mais selon cette conception-là du bonheur, n'est pas heureux qu'il veut. Être inconscient va à l'encontre quand même de la finalité de la vie humaine. On est imbécile heureux, mais il est plus que difficile de rester un imbécile heureux, finalement. voire même impossible, de par la faculté essentielle qui motive nos actions, c'est-à-dire la faculté de... c'est-à-dire la soif de connaissance. On oui. a tous le goût de connaître, en fait, oui. en tant qu'être humain. Donc, l'imbécile heureux ne peut pas rester dans son état de bonheur absolu, puisqu'il ne connaît rien, finalement, que c'est, justement, il peut seulement rester dans son état d'imbécile heureux que s'il ne connaît rien, que s'il demeure inconscient. Mais, justement, dès qu'il accède à un fragment de connaissance, l'imbécile heureux, il est foutu, là. Il veut retourner à cet état de félicité qui lui procurait tant de bonheur, mais c'est impossible pour lui de retourner à cet état-là.
Parce que du moment qu'on sait, on sait. On ne peut pas ne plus savoir.
Exactement.
Oui.
Donc, c'est pas ça le but de la vie, finalement, être heureux. On peut dire que c'est son inconscience de son être dans le monde qui l'a poussé vers la connaissance. Sinon, il serait resté dans son idée d'inconscience. C'est ça, c'est une situation paradoxale, mais c'est ça qui est ô combien humaine, finalement. Donc,
on peut passer à la deuxième catégorie, parce que j'ai peur qu'on n'ait pas le temps.
Non, exactement, ouais. Donc, comme je viens de le dire, l'imbécile heureux ne peut pas rester dans son état actuel par sa nature paradoxale qui le pousse à la connaissance du monde et lui-même. Ce qui m'amène au deuxième cycle de bonheur, justement, c'est l'heureux malgré tout.
Okay.
Dans le plus profond de son être, l'être humain veut renouer avec le bonheur, mais il ne sait trop comment s'y prendre et une des solutions qui s'offre à lui en tant qu'être de connaissance, c'est de faire fi du monde, de faire abstraction des problèmes et du malheur qui afflige l'humanité, ou en tout cas de se retourner vers lui-même.
Okay.
Donc lui, c'est vraiment un bonheur qui se retourne sur lui-même.
Heureux malgré lui.
Oui, l'heureux malgré tout.
Mais heureux malgré tout.
C'est ça.
Okay.
Pépé sa guitare, justement, la chanson qu'on a entendue au début, c'est la figure qui correspond le plus à ce type de bonheur, selon moi. Il nous dit, par exemple, dans une de ses chansons, « Je préfère être heureux que de me prendre au sérieux ». Il dit aussi que lui aussi cherche une solution au problème, mais que sa solution pour régler le problème, finalement, c'est de propager le bonheur tel un marchand de bonheur. Il veut faire quelque chose selon lui et ce que quelque chose-là, c'est simplement d'être heureux. Donc, pour Pépé et pour l'heureux malgré tout, le bonheur, c'est une sensation, une émotion. C'est un état d'esprit que l'on doit s'imposer à soi-même tel un impératif.
OK. C'est-à-dire qu'il sait que le monde n'est pas parfait, mais il décide...
Il décide lui-même d'être heureux parce qu'il se dit que c'est la seule manière qu'on peut s'en sortir, finalement.
Okay.
Sinon, on est poussé dans le cynisme. C'est comme la chanson de Bob Marley, « Be happy ». Sois heureux, peu importe ce qui arrive dans le monde, peu importe ce qui t'arrive personnellement.
Ouais.
Sois heureux, crée ton propre bonheur.
C'est une attitude.
C'est une attitude, exactement, oui. Combien de fois, justement, on voit défiler des images sur Facebook ou des belles citations qui nous disent que le bonheur nous appartient, de ne pas courir après le bonheur, de simplement être heureux.
Dans le fond, ça correspond à l'impératif contemporain.
Exactement. C'est be happy, sois heureux.
C'est ça. Être heureux malgré tout, c'est ça notre fameux devoir civique. Là.
Exactement, oui. Ouais. Bon. Donc, comme je l'ai souligné, cette catégorie-là, c'est une forme de bonheur qui correspond à une vision vraiment égocentrique. C'est un bonheur centré sur soi et où la quête de connaissance ne fait pas partie des grandes valeurs à prioriser. Mm-hmm. On n'est pas dans la recherche du monde parfait, on est dans « sois heureux ici et maintenant au quotidien ». C'est ça, finalement. Donc, si je peux aller aussi vers le troisième forme, finalement. Oui. Mais comme rien n'est simple dans ce bon monde, on veut bien être heureux ici et maintenant, mais on n'y arrive pas nécessairement. C'est pour ça qu'il y a une autre catégorie qui s'appelle le malheureux malgré lui.
OK.
Car lui, si certaines personnes n'ont pas beaucoup de difficultés à être heureux malgré tout, il en est tout autrement pour cette personne-là, parce que lui, finalement, sa constitution biologique, j'ai envie de dire, lui permet pas d'être heureux aussi facilement que ça.
OK.
De cette manière-là, le heureux malgré lui comprend que le monde...
Le malheureux malgré lui?
Le malheureux malgré lui, c'est ça. Lui, il vit le monde passionnément. On peut dire qu'il a une connaissance émotionnelle du monde qui l'entoure. Un rien l'affecte et son petit bonheur en prend un coup.
OK.
Tout comme le heureux malgré tout.
Il est sensible.
Il est extrêmement sensible, c'est ça. Le bonheur, ça vit intérieurement pour le malheureux malgré lui. T'sais, il veut être heureux, mais ne sait trop comment y arriver. Mm-hmm. L'impératif d'être heureux lui pèse lourd sur les épaules et comme l'atteinte du bonheur lui semble impossible, il se crée un bonheur artificiel, un bonheur désincarné, stérile, j'ai envie de dire. Par exemple, la drogue, l'alcool, les antidépresseurs et tout ce qu'il peut trouver pour retrouver son état d'inconscience, finalement, qui lui permettront d'oublier ses malheurs, sont ses alliés.
Okay.
Comme dans la chanson des Beatles, « Happiness is a warm gun », en faisant référence à une seringue chaude qui vient de se décharger dans son corps. Je sais pas vraiment si c'est ça que John Lennon voulait dire, mais ça résume très bien le bonheur pour l'heureux malgré lui. L'individu se sent impuissant face au malheur qui assombrit le monde, qui lui rentre dedans. Il ne trouve rien d'autre que de trouver un bonheur artificiel, finalement.
Est-ce que ça se peut que le bonheur individuel ne lui suffise pas? C'est qu'en voyant justement le malheur autour de lui, que son bonheur individuel...
Ben en fait, lui, il aimerait...
Il
aimerait être heureux. Il aimerait que son bonheur individuel passe avant tout. Mais il est conscient du monde, c'est ça. Il aimerait ça, mais en même temps, puis il est pas capable de trouver une autre solution autre que éliminer ses émotions. Parce que pour lui, émotion rime toujours avec déception.
Oui.
Donc, il préfère se lancer dans la drogue ou dans les antidépresseurs ou tout ce qui peut stériliser, finalement, ses émotions.
Dans le fond, c'est quelqu'un qui pourrait être heureux si tout le monde était heureux. C'est que le malheur des autres assombrit
exactement.
Son bonheur à lui.
Un peu comme la dernière catégorie auquel que j'en viens, sauf que lui, il sait pas comment trouver son bonheur. Fait qu'il se retourne vers lui-même encore une fois, mais c'est ça, il trouve juste une façon de tuer finalement ses émotions.
Ce qui devient de l'autodestruction.
Exactement, oui. Donc c'est ça, comme j'ai dit... il me reste une catégorie, finalement.
Mm-hmm.
Donc, nous avons ici trois comportements, les trois premières catégories, liées à l'impératif du bonheur qui est véhiculé dans la société aujourd'hui.
Mm-hmm.
Excusez. L'imbécile heureux qu'on aime rire de lui, mais que finalement, c'est lui qui rit de nous, parce que
c'est lui qui est le plus heureux de la gang.
Il y a l'heureux malgré tout, c'est-à-dire les papiers sa guitare de ce monde qui préfèrent voir les choses du bon côté et propager l'heureusité qui se cache au fond de nous, pour utiliser un néologisme, et le malheureux malgré lui, qui lui accepte difficilement son malheur et cherche à tout prix le bonheur, quitte à stériliser ses émotions.
Okay.
Donc, il reste le quatrième comportement relié à l'impératif du bonheur, qui lui accepte sa condition de malheureux. Je l'ai appelé celui-là, c'est la conscience malheureuse.
Okay.
Son bonheur personnel lui importe peu. Ce qui l'intéresse, c'est de sauver le monde, littéralement. C'est le militant de service qui se lance corps et âme pour le sort de la planète, pour sauver les belugas, pour faire comprendre à ses amis que le sort des Biafra est bien plus important que le petit bonheur personnel du consommateur de bonheur en canne acheté au Walmart.
Oui. C'est bien dit.
C'est lui qui veut faire prendre conscience du sort du monde à l'imbécile heureux. Et s'il peut parfois être heureux malgré tout, son bonheur est éphémère comme dans la chanson « Le petit bonheur » de Félix Leclerc.
Ouais.
Parce qu'il est davantage malheureux malgré lui. Mais dans tous les cas, il est dans la quête du bonheur. Le bonheur collectif, le bonheur politique, autrement dit.
Okay.
Il ne sera heureux que le jour où tous les individus auront atteint un niveau de bonheur absolu, si cher aux Américains, en tout cas assez pour l'avoir inscrit dans la Déclaration d'indépendance. C'est pour ça que je l'ai appelé la conscience malheureuse, parce que son propre bonheur ne passe que le bonheur des autres, finalement, que par le bonheur de la société, bref. Et comme personne ne sait c'est quoi le bonheur dans nos sociétés capitalistes, nous dit Capitaine Révolte, ben, les consciences malheureuses...
C'est qui, c'est Capitaine
Révolte? C'est un groupe de musique québécois qui est moins présent aujourd'hui, mais qui existe encore, je crois.
OK.
C'est ça, selon eux. Personne ne sait c'est quoi le bonheur. Tout le monde recherche le bonheur, mais personne ne sait c'est quoi. Donc, les consciences malheureuses de ce monde sont vouées à chercher le bonheur, mais sans réellement... sans réelle chance de le trouver. Donc, si avec la nouvelle philosophie du si avec la nouvelle philosophie du monde occidental qui émerge au siècle des Lumières, tout le monde est en droit de rechercher le bonheur, mais j'en suis arrivé à la conclusion finalement que tous ne conçoivent pas la recherche du bonheur
de la même manière.
C'est bien ça le malheur, j'ai envie de dire.
Il paraît que tout le monde cherche le même bonheur ou de la même manière. David, est-ce que tu as une conscience malheureuse, toi?
Ah non, au contraire, hein, la vie c'est beau.
Oui.
C'est ce que j'ai à dire.
J'ai de la misère à te croire.
Ah non.
T'avais-tu une petite
citation? Ben oui, j'en aurais deux petites, tout petites pour vous.
Allez.
Une de Voltaire, hein, on ne pouvait pas le passer sous silence, t'en as toi-même parlé un peu tantôt. L'optimisme, c'est la rage de soutenir que tout est bien quand on est mal. Alors ça, c'était de Voltaire dans Candide.
Dans Candide, oui.
Oui, tout est bien. Soutenons que tout est bien. Alors, c'est ça. Je suis optimiste, finalement. Et une petite seconde, je préfère, celle-là, elle est très drôle, je préfère vivre en optimiste et me tromper que de vivre en pessimiste et avoir toujours raison.
Mais ça revient.
On te reconnaît bien là, David.
C'est ça, c'était tiré, je vous le dis, au passage, de Jean-Michel Guénassia dans le Club des incorrigibles optimistes, publié chez Albin Michel, un livre assez cynique.
Tu allais dire quelque chose?
Oui, bien, en fait, ça me faisait penser justement à Pépé sa guitare qui dit « Je préfère être... à ne pas me prendre au sérieux plutôt que de... » Ça, je préfère plutôt ne pas me prendre au sérieux pour être heureux, finalement.
Oui, ouais. C'est ça. C'est une question d'attitude.
C'est la question aussi, on pourrait dire, par rapport aux consciences malheureuses que, justement, ils n'ont pas le choix de trouver leur petit bonheur à l'intérieur d'eux-mêmes. Sinon, ils sont voués justement, à la dépression, à se tourner vers les autres formes de bonheur, finalement.
Donc. Merci beaucoup, Patrick. Pour conclure et pour aller dans le même sens de ce que tu viens de dire, je vais vous lire un petit extrait d'un texte sur le bonheur aussi de Raphaël Antovan, tiré de la Philosophie Magazine. « L'impossibilité du bonheur est-elle une raison suffisante de lui tourner le dos? Celui qui s'en prive au motif qu'il est décevant n'est-il pas dans la situation d'un homme qui s'emplirait le corps de poison et d'aliments mortels par cette belle raison qu'il n'espère pas jouir toute l'éternité d'une bonne nourriture? Ou qui, voyant que l'âme n'est pas éternelle ou immortelle, renoncerait à la raison et désirerait devenir fou? » Ça, c'est Spinoza, encore une fois. « Il faut aimer le bonheur malgré lui, pardonner au bonheur de n'être pas durable, goûter à pleine bouche ses fruits empoisonnés. Ceux qui fuient le bonheur de peur qu'ils ne se sauvent sont comme ceux qui se tuent par crainte de mourir. Le bonheur sauve qui peut. » Pause musicale.
Tout le monde veut de l'argent.
Beaucoup,
tout le monde.
Tout le temps.
Beaucoup d'argent. Même les gens du genre pas indigents pour deux scènes. Si t'es quand t'es plus peu capé, en ont toujours besoin de plus. Imagine le petit cus qui passe au marché aux puces. Pour que sa douce le suive jusqu'au bout. Il faut que sa bourse, ça tienne le coup. Ça peut paraître odieux, mais les dames ne nous aiment pour nos beaux yeux. En tout cas, pas tout le temps.
L'amour est heureux tout le temps.
Malheureux, un des deux qui est parce qu'il... qui veut. Si la veille serait pas mieux, une gamme à mourir d'amour au lieu de flamber un petit peu. Sur la rue en route, tu relutes, tu relutes, tu la hutes, tous les hutes, bah hop, 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 là, ma flûte dans mon feu qui est dur comme une patate dans une poche que je te. Viens, mon gros, joue plus, tu vas jouer du pipo, que je me dis sous ma perruque, sans un souffle les mots. Ma canatada, malheureux en amour, t'as le temps.
En amour avec toi, da, di, 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 da, avec toi et les autres tout le temps, 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 tout le temps.
Bon petit Québec, petit poste pas de fête, papi toi t'as pas sur mon poste pas de sort, où tu vas finir sur le spectateur, le mort à la terre, pays des bonheurs qui n'en a pas l'air, t'as peur de disparaître comme les os polaires.
Personne ne se souvient où est ma tombe, personne ne se souvient de mon inscription. Et tandis que les feuilles d'automne tombent, recouvrant à jamais mon nom, disait sans cesse le squelette, le mort couvert de pâquerettes. Personne ne se souvient où est ma tombe, personne ne se souvient de mon inscription. Et tandis que je me désagrège, que dans le sable je m'allège, tout va bien sous mon cimetière, je suis tranquille à présent. Il y a toujours quelques passants, il y a toujours quelques amants, quelques rêveurs solitaires qui savent mon nom étrangement. Quelques rêveurs solitaires qui savent mon nom étrangement. Il est joli mon cimetière, avec ses petits murs de pierre, ses belles clôtures blanches et ses parterres de pervenches. Le vent est doux au cimetière, les feuilles volent éclatantes. Et un nouveau rêveur solitaire, un naufragé, un suicidaire, un jeune couple qui prend l'air. J'étais amoureux en mon temps, j'ai haï beaucoup moins souvent. Et maintenant que je me repose, qu'en sable je me métamorphose. Cela ne me fait pas grand chose, je vois la mort en rose. Cela ne me fait pas grand chose, je vois la mort en rose. Personne ne se souvient d'où est ma tombe, personne ne se souvient. Pendant que l'heure avance, que rien n'a plus d'importance. Un prisonnier sur qui l'on tire, une fille qui souffre le martyr dans une famille d'assassins. Tout ne finit pas toujours bien, un souffre-douleur à l'école, pour cent qui rient, un seul qui pleure, pour un bonheur, mille malheurs. Et pour un riche, 50 pauvres, rien n'est facile sous le soleil. Pas d'œufs sans casser les omelettes, disait encore le vieux squelette. J'ai fait du mal, j'ai fait du bien, le temps qui passe, je n'y peux rien. J'ai aimé rire avec toi, j'ai aimé pleurer dans tes bras. J'aimais le soleil et la joie, je l'ai perdu tellement de fois. Le vent est doux au cimetière, deux amoureux, un solitaire. Et un cortège qui suit la bière d'une grand-mère. Le vent est doux au cimetière, deux amoureux, un solitaire. Et un cortège qui suit la bière d'une grand-mère. Qui vient nous rejoindre. Pour un heureux, 12 perdants, 50 morts pour un diamant. Pour une femme et son amant, 12 balles dans un bain de sang. Plus loin, une femme autoritaire, écrase des enfants le père. Constamment acerbe, toujours maussade, jalouse comme une palissade. Et à côté, ce vieux connard qui tape sa vieille sur le placard. Tandis qu'un jeune possessif surveille la sienne comme un récif. Sur lequel chaque élan de joie s'écrasera comme un navire. Pour qu'enfin le jour arrive, du résultat que je constate. Tout autour de ma tombe, ces pierres tombales, où sont inscrits les noms d'époux et d'épouses qui ont réussi l'exploit de s'enlever la vie ensemble. De s'enlever la vie ensemble. Thank you. Le sourire de la boulangère sera toujours reproché au père. Ceci se venge sèchement quand la femme a un amant. Rien de nouveau sous le soleil, la mauvaise foi toujours pareille. Et autour des petits-enfants ont lieu ces non-dits charmants qui font du couple le ciment, de la société le ferment, avant qu'on parte les pieds devant. Avant qu'on parte les pieds devant. Mon nom à moi est écrit seul, mais moi jamais je ne m'engueule avec une mégère de tombe. Je n'ai pas le silence qui plombe. Je n'ai pas le silence qui plombe. Comme les enterrés d'à côté dont l'éternelle exclusivité fait le gazon si doux et ras. La stèle double et
Alors, c'était la pièce « Personne » tirée de l'album « Mexico » de Jean Leloup. Et cette pièce permet d'introduire une réflexion sur le cynisme. Le cynisme qui est une posture contemporaine assez répandue. J'ai trouvé un texte de Alex Gagnon sur un blog qui s'appelle « Littéraire après tout » qui a donc fait une réflexion sur le cynisme et je vous la partage ce soir. Ça s'appelle « Nous autres cyniques ». À plusieurs égards, le cynisme semble devenu aujourd'hui un mode d'être passablement répandu. Ce n'est ni un sentiment, ni une émotion, mais bien un état d'esprit, une manière d'exister, une sorte de rapport au monde dont les manifestations et les degrés sont variés, mais qui est trop courant et partagé pour pouvoir être ramené à un hasard insignifiant ou une circonstance anodine. Qu'est-ce que le cynisme? Le petit Robert 2010 dit de l'être cynique qui exprime ouvertement et sans ménagement des sentiments, des opinions qui choquent le sentiment moral ou les idées reçues, souvent avec une intention de provocation. Au centre de cette définition, relativement pauvre et chétive, on en conviendra, il y a l'idée d'un bris, d'une rupture, d'une sorte de dépucelage idéologique. L'être cynique interrompt une répétition, heurte une convention sociale, contrarie ce qui lui apparaît comme une naïveté entretenue, un politiquement correct, consensuel et aveuglé sur la cruelle réalité des choses. En ce sens, le propos de l'être cynique est de prétendre à une lucidité dérangeante, à une clairvoyance déstabilisante. Le cynisme est, en substance, une désacralisation, une éraflure sauvage et satisfaite d'elle-même dans la douceur et le confort de ce que les cyniques perçoivent comme une duperie ou un leurre. Attendez un instant, je vais changer de page. Voilà. Deux nuances s'imposent immédiatement car il s'agit là d'une définition théorique. D'une part, dans son usage contemporain courant, le mot laisse aussi résonner d'autres significations qui se situent quelque part entre le désespoir et la lassitude. D'autre part, dans la pratique, le cynisme, lorsqu'il est poussé jusqu'à l'excès, risque de transformer la prétention de lucidité en aveuglement, en prison ou, pire encore, en stupidité. Je n'esquisserai pas ici une typologie complète des dérivés du cynisme, mais il n'est peut-être pas inutile de décrire la constellation d'états moraux et psychologiquement négatifs au cœur de laquelle le cynisme existe en instillant ses effets. Ressentiment, mauvaise foi, esprit de vengeance, rancune, désillusion, etc. Derrière chaque être cynique, comme dirait un ami à moi, il y a un idéaliste pendu. Ou encore, si j'ose dire, un optimiste égorgé. En effet, on ne naît pas cynique, on le devient. Le cynisme comme apprentissage implique une sorte de parcours initiatique dans la mesure où la désillusion est un processus, un état d'esprit qui se contracte au contact d'une réalité incalculablement décevante. Bien sûr, l'un des ingrédients qui constitue le cynisme est sans doute à l'affranchissement. Je parle de la méfiance ou d'une propension au soupçon. Mais l'être cynique n'est pas uniquement celui qui a compris ou qui prétend pouvoir révéler aux pieux en tout genre la véritable nature de la réalité. C'est aussi celui qui demeure malgré tout et malgré lui, le monde est infuyable, contraint de participer, ne serait-ce que minimalement à cette réalité que fondamentalement il déteste et abhorre, à laquelle il ne croit plus. La méfiance, qui repose sur la crainte d'une duperie considérée comme virtuellement toujours possible, présuppose la possibilité d'atteindre le vrai et d'agir pertinemment selon une certaine idée du bien. De son côté, le cynisme est souvent vécu comme un piège, comme une situation où l'engagement est impraticable. L'être méfiant perçoit la réalité douloureuse comme le tremplin d'une transformation possible, mais il devient un être cynique le jour où la découverte de cette réalité douloureuse cesse d'être orientée vers une fin. En somme, l'être cynique ne rêve plus. Dépouillé des illusions ou des croyances qui rendaient naguère sa vie supportable, il préfère prendre la fuite, c'est-à-dire se laisser couler dans les bras de la résignation pour rejoindre un autre confort coupable, celui de l'immobilisme, de l'inaction, puisque tout engagement se résume désormais pour lui à une sorte de compromission suspectée de couver un optimisme nécessairement risible. En ce sens, les cyniques endurcis sont souvent ceux et celles qui perdent le goût et la capacité de la révolte. Ils en ont toutes les raisons au moment même où ils en perdent complètement l'envie et le besoin. L'indignation elle-même, à laquelle ils regrettent d'avoir cru, mais qu'un jour peut-être ils embrasseront encore, les exaspère autant que l'apathie stupide et béate de ceux et celles qui ne s'indignent pas. Le cynisme se cultive dans une tension, dans la simultanéité entre une action, vivre, s'engager, et la conscience de son inutilité, de sa vacuité. Pour l'être cynique, l'adhésion est en errance perpétuelle. Il voit le monde pourri, ou plutôt ne voit du monde que sa pourriture, et constate en même temps qu'il faut renoncer à l'espoir de le transformer. Le cynisme, comme état psychologique et moral, résulte en ce sens d'une perte. C'est à strictement parler une déchéance, perte d'adhésion, perte d'espoir, rencontre avec ce qui apparaît à l'être cynique comme la réalité brute, sauvage et nue des choses. C'est d'ailleurs cette expérience de la perte qui relie intimement peut-être le cynisme et le ressentiment. On pourrait parler ici de l'être du ressentiment de Nietzsche. Selon Nietzsche, c'est une personne qui n'arrive plus à n'en finir de rien. Portée à la rancune, cette personne n'oublie plus les mauvais souvenirs qu'elle rumine sans cesse, car la rancune, c'est le fait de ne jamais oublier et de permettre au passé, en quelque sorte, de jouer le rôle du présent. La mémoire, comme un disque qui saute, n'arrête plus de ne pas arrêter. Après la perte d'un espoir, de l'attente d'un monde meilleur, l'être du ressentiment est celui qui, pour parler en termes culinaires, cultive une déception amère pour la monter en hostilité ou en petit esprit de vengeance, comme on monte des œufs en neige. Le ressentiment, en tant que honte d'avoir déjà été soi-même, nous fait haïr ce qu'un jour on a aimé. Mais lorsqu'il se radicalise, il présente cette particularité d'être un renversement intégral, probablement plus lâche et inutile que ce qu'il renverse. L'être du ressentiment va souvent plus loin dans la haine et le mépris qu'il n'était allé dans l'amour et l'espoir. Bref, à force de ne pas surmonter son ressentiment, il risque d'en devenir l'esclave. Il peut finir, comme pour rationaliser son état, par se bâtir une image plus ou moins déformé, amplifié, de la réalité à la hauteur de son cynisme. Il contribue à construire imaginairement l'ennemi qu'il prétend trouver hors de lui. Il se donne une image faussée du monde pour donner raison à sa haine et à oublier que, pour avoir une image des choses valide et adaptée à elle, il fallait d'abord s'y intéresser, les connaître de près et aller à leur rencontre, reconnaître à ce qu'ils méprisent une raison d'être et un droit à exister. À ce stade, heureusement les cyniques ne s'y rendent pas tous, l'être cynique semble devenu un Don Quichotte épuisé. Il voit des moulins partout, mais ne se bat plus. Son cynisme s'est figé. Il est devenu une posture générale, un style de vie, une façon de se distinguer par la réaction. Dans le discours de l'être cynique, les nuances tendent alors à mourir. Et avec elles, l'intelligence commence à être menacée. L'attitude invariablement critique finit chez lui, paradoxalement, par étouffer le sens critique. Son propre état lui fait presque systématiquement tout remettre en question, alors que c'est précisément lui qui, parfois, mériterait le plus, à l'instar de toute autre chose, d'être remis en question. En un sens, la personne profondément cynique ressemble à l'Emma Bovary qui, à la toute fin du roman de Flaubert, finit par se suicider. Mais certains cyniques en sont aussi l'antipode. Leur cynisme, devenant un bonheur, une chose attachante, leur détestation du monde étant précisément ce qui les relie et les attache à lui. Ils ont horreur du monde, dont ils ont besoin et qu'ils aiment injurier. Il y a sans doute diverses formes et plusieurs degrés de cynisme. Mais, d'une façon générale, je crois que le cynisme contemporain est intimement lié à l'existence de systèmes sociaux et politiques entremêlés, dont la complexité nous échappe quotidiennement. Ceux-ci nous confinent à un sentiment d'impuissance, tout en faisant miroiter constamment la possibilité du changement. Chaque individu sait bien qu'il est coupable de tout, mais responsable de rien, et qu'il n'y aura pas de procès pour juger sa non-intervention dans le monde. Alors l'un des grands défis peut-être de notre temps consiste à transformer le cynisme en point de départ, lui qui est le plus souvent psychologiquement un point d'arrivée. La seule question qui mérite ici d'être posée n'est pas tant de savoir comment en sortir, il faut plutôt se demander comment convertir, comment mobiliser le cynisme pour en faire le tremplin d'une force, d'une volonté, d'un engagement. Car le problème et la ruse du cynisme, c'est qu'il est supportable à long terme. Il immobilise la personne qu'il gruge et donne l'impression de ne pas détruire le monde alors qu'il contribue à le faire d'une manière détournée, en détruisant précisément la volonté d'intervenir pour le transformer. C'était un texte de Alex Gagnon sur le site littéraire Après tout. David, est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on passe à la pause musicale?
Ben, moi, j'ai trouvé quelques phrases drôles. Je ne sais pas si ce sont des gens cyniques, mais moi, ils m'ont fait rire.
Alors, rire?
Ben, on verra. Mais c'est ça, je ne sais pas si c'est des phrases drôles. Ben, allons-y comme ça. Les théories de Milton Friedman lui ont valu le prix Nobel. Pour les Chiliens, ça a été Pinochet. Et ça, c'était Eduardo Galeano, celui qui a écrit « Les veines ouvertes de l'Amérique latine », que je vous conseille à tous. Et ça, c'était tiré de « Jour et nuit d'amour et de guerre ».
Est-ce que c'est considéré comme un cynique?
Galeano, non, pas du tout. En fait, Milton Friedman était peut-être un peu plus cynique, lui. Il paraît qu'il a ri quand il a reçu le prix Nobel. Une autre tout petite de Machiavel, qui lui non plus n'était pas reconnu pour être un bout en train, mais quand même. Le mal doit se faire tout d'une fois. Comme on a moins de temps pour y goûter, l'offense sera moins. Ça fait penser à quelque chose. Puis j'en ai peut-être juste une petite dernière. Je pense que je manque mon coup avec le cynique. C'est pas drôle. Le cynisme, c'est pas drôle du tout. Mais quand même, allons-y.
Oui.
Alors, qu'on répande la bonne nouvelle. Les lois de l'économie sont comme celles de l'ingénierie. Elles s'appliquent partout. Et ça, on doit ça à Lawrence Summers, l'économiste en chef de la Banque mondiale, en 1991.
Oui, mais lui, il se croyait, là. Il était sincère. Lui, il pensait ça pour vrai, là.
Ça doit être un autre prix Nobel. Oui. Puis peut-être une petite dernière. Pas drôle, elle, non plus.
Oui.
Alors, l'un des risques associés aux opérations fondées sur le choc a trait aux conséquences involontaires ou au déclenchement de réactions imprévues. Par exemple, des attaques massives contre l'infrastructure d'une nation, son réseau électrique ou son système économique peuvent créer des souffrances telles que, à cause du contre-coup, nous fouettons la volonté nationale de nos opposants. De combattre au lieu de l'affaiblir. Alors, la stratégie du choc, ouais, qui aurait dû servir à affaiblir l'ennemi, le fouette et lui donne envie de combattre. Ça, c'était tiré du lieutenant-colonel John Shanahan sur sa théorie du shock-based operation. En tout cas, je m'excuse, c'est manqué complètement.
C'est beau. Non, ça va. Merci beaucoup.
OK, je vous en fais une dernière.
Non, mais là, on n'a pas le temps.
Pardon,
On va terminer sur une pièce musicale qui nous permet de renouer avec le bonheur, parce que là, c'est un petit peu triste, tout cet extrait sur le cynisme. Et c'est une pièce qui est très importante parce qu'elle a été écrite en 1937, 2 ans avant le début de la Deuxième Guerre mondiale, une des plus meurtrières, et ça s'appelle « Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ».
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? La route est prête, le ciel est bleu.
Il y a des chansons dans le canot à queue. Il y a de l'espoir dans tous les yeux. Et des sourires dans chaque fossette. La joie nous guette, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Il y a des noisettes dans le chemin creux. Il y a des raisins, des rouges, des blancs, des bleus.
Les papillons. Ooh.
sur mon dos. Et je garderai ton cœur loin des mains sales des chasseurs. Pour ce qui est de tes bois,
Alors, on vient d'écouter la pièce « Trophée de chasse » du groupe Sweetgrass, qui est un groupe de la scène émergente, un groupe de folk, comme vous avez remarqué. Je suis en ce moment en compagnie de deux de ses membres, Alexandre Rodrigue. Bonjour, Alexandre. Alexandrine.
Oui.
Alexandrine bonjour. Rodrigue et Pierre-Antoine Tanguay.
Oui, bonjour.
Alors, vous faites partie du groupe Sweetgrass. Il y a combien de personnes dans Sweetgrass?
On est officiellement trois. Okay. Donc, il manque une personne. Mais
qu'on vient d'entendre chanter, je pense.
Oui, c'est ça, c'était la chanteuse de la pièce qui vient de passer. Mais sinon, on est cinq ou quatre. Ça dépend tout le temps des disponibilités d'eux autres, mais c'est rendu pas mal rare qu'on ait juste trois.
Et comment vous vous êtes trouvés, tous les quatre? Vous demeuriez dans le même coin ou vous, ouais. Vous avez étudié ensemble? Ou...
Ben, un mélange de tout ça.
Okay. Des amis communs aussi. C'est sûr, il y en a qui ont étudié ensemble, les autres qui c'était juste des amis d'amis, disons. Puis...
OK.
À la base, on s'est pas mis ensemble tous les quatre d'une shot. Ça a surtout passé par quelques changements de groupe, de membres plutôt, jusqu'à maintenant.
Okay. Surtout que ça fait juste un an qu'on existe.
OK, c'est vraiment la scène émergente.
La recette gagnante, si on veut, là, on est en train de la trouver. Là. Ben, je pense qu'on l'a trouvée.
Oui, oui.
OK. Votre musique est disponible sur Bandcamp maintenant?
Ouais, ben là, on a enregistré notre premier album sérieux studio cet hiver.
OK.
Puis le lancement, c'est le 21 mai au Quai des Brumes à Montréal, puis le 28 mai au Sous-Bois de Chicoutimi.
OK.
Puis là, pour l'instant, ben, il y a deux pièces du EP, du démo, donc, qui sont sur Bandcamp, dont Trophée de chasse et une autre pièce.
OK.
Puis ils vont tous être disponibles à partir du 21 mai.
Est-ce que vous êtes du Lac-Saint-Jean?
On est
Saguenay.
Plus Saguenay, oui.
C'est un petit mensonge différence. Dans la pièce, là. Parce que c'est tellement plus cool, le lac Saint-Jean.
Ah oui?
Tu fais le tour du Saguenay, c'est assez plate, disons.
Ouais, on peut pas faire le tour du Saguenay tant que ça.
Plus un rond. Non, on est plus du Saguenay, là, disons, mais en majorité, on est pas mal juste du Saguenay.
Ouais, mais moi puis l'autre, ben on a tout étudié au lac Saint-Jean, en musique un petit peu.
OK. En musique?
Ouais, ben les cinq membres du band ont passé par le même cégep, c'est juste que, mettons, on n'est pas tous restés le même nombre de temps au cégep.
On n'est pas tous diplômés.
Ouais, c'est ça.
C'est des choses qui arrivent. Hein?
Et
qu'est-ce qui vous a amené vers le folk? Est-ce que c'est quoi vos influences dans le fond musical? Est-ce que vous avez toujours écouté du folk ou
contraire, non.
Non?
Non, moi non plus, non.
Ah, c'est intéressant, ça.
On n'écoute pas tant que ça, non.
Ben, tu sais, c'est sûr que oui, parce que la scène québécoise folk, ben, tu sais, moi, je la connais quand même bien, puis Pierre-Antoine aussi, mais okay. En fait, c'est que moi, c'est surtout le fait que je me suis jamais vraiment rattachée aux instruments électriques ou quoi que ce soit.
OK.
Puis, je me concentre plus juste d'une voix, d'une guitare ou d'instruments acoustiques, puis... que ça a donné quand on a composé des tunes et qu'on a joué ensemble, c'est du folk.
L'acoustique mène évidemment plus vers le folk.
C'est un peu plus simple aussi d'un côté.
Oui.
Quand même. C'était mon opinion. C'était mon commentaire là-dessus.
Oui. Est-ce que vous faites plusieurs spectacles cet été? Est-ce qu'on peut vous voir un peu partout?
J'ai pas amené de liste, j'aurais dû, mais.
Okay.
Oui.
Oh, ça aurait pris une liste.
Ouais, c'est ça. C'est pas,
c'est bien, ça va bien, ça veut dire.
Oui, on a travaillé fort pour.
Un beau projet qui s'en vient cet été.
Oui, exactement. Puis, ben, c'est ça, on commence, ça, Ça commence pas mal le 21 mai, justement, notre
avec
notre
le lancement.
Tournée, ouais. On va faire quelques dates au Lac-Saint-Jean, au Saguenay. On va faire le Festival de la chanson de Tadoussac comme artiste en résidence. On va participer au Foxal.
Oh,
fin
oui!
Juin. Ouais.
Oui.
Oui, on est sous l'affiche qui est dans la salle de bain ici.
Oui. Saint-Rose-du-Nord.
C'est ça.
Ouais, c'est ça.
Oui.
On a un show à l'Île-du-Prince-Édouard. On en a quelques-uns au Nouveau-Brunswick. Sinon, on va jouer à la JT à Québec le 18 okay. juin, si je me souviens bien.
Il me semble que c'est le 18,
ouais. Ouais.
Ouais,
alors,
ouais,
on dira aux gens d'aller voir sur votre site. Vous avez un site web?
On a, oui. Ben, on a une page Facebook.
Page Facebook.
On n'a juste pas sorti les dates encore, mais
Sweet
ça s'en...
Oui, on la sort dans cette semaine.
Vous avez enregistré tout à l'heure à la librairie Saint-Jean-Baptiste même deux pièces musicales
oui.
qu'on a enregistrées live. Mm-hmm. Quelles sont les deux pièces?
Le Condor et Folle.
Le Condor et Folle.
Ouais, alors... Le Condor qui va se trouver sur le EP, mais Folle n'y est pas.
Bon, et alors on a une primeur ici ce soir, alors on va écouter ça. Je vous remercie beaucoup. Merci Alexandrine. Merci Pierre-Antoine.
Merci à vous.
Merci aussi à Mélissa Fortin qui joue le Mélodica sur les pièces qu'on a enregistrées.
Mais pas dans le band. Mais, bon. Mais elle s'est donnée pour la cause. On était contents qu'elle soit là quand même pour nous aider, là, vu qu'on est juste deux là, pour aujourd'hui.
C'est parfait. Alors on vous souhaite bonne chance cet été. Passez un bel été.
Merci. Merci.
Et on vous écoute.
Un peu plus.
C'était donc Sweetgrass qui nous ont fait une interprétation live à la librairie juste avant l'émission. On vous invite à suivre leur calendrier de spectacle cet été. On arrive à la dernière partie de l'émission. On va rencontrer Will qui va nous faire une histoire du graffiti moderne. Et pour se mettre dans l'atmosphère, on va écouter la pièce Painting du groupe Atmosphère pour nous mettre dans l'atmosphère du monde du graffiti dont va nous parler Will. À tout de suite.
Color paint gonna cover the stains. The pictures on the wall will all remain. And even though he's home now, sound is safe. Surrounded by the faces that he places faith. The images visit from the past he witnessed. Can't stay away from the memory. Sticks with each detail embedded in stone. Like he chisels those convictions into his bones. The progress stops and pauses. Spits and sputters like the basement faucet. And it's obvious he's lost in his regrets. You can smell it on his breath. Ain't no color paint gonna cover the stains. But now the alcohol is gonna mother the pain. Tuck it away, no complaints. Just laying on his backyard under the rain. Take tomorrow, but doesn't know how though. For every swallow, there's another to follow. He weaves his way throughout the story. Looking for a new missing piece or a door key. Spirits used to be for celebration. But now they just take them away from the hell that's waiting. Up until it's three sheets up and pick a place for the skeletons to meet up. Ain't no color paint gonna cover the stains, but if the oxygen escapes, it'll smother the flames. No introduction, doesn't speak his own name. Gonna beat them demons at their own game. The sunset rides to the end slow, same song echoing outside of the window. You can't grow if the skin don't fit you. Sometimes you gotta get low just to get through. No inspiration left to do your best when nobody hates you more than your reflection. Suffer the shame until it stuffs the drain. He's got two hands and a bucket of paint. Come on.
Alors, on accueille maintenant Will qui va nous parler du graffiti et de la culture hip-hop parce que souvent, on relie graffiti et hip-hop. Bonjour, Will.
Bonsoir, Catherine.
On a le sentiment que le graffiti, c'est un phénomène complètement contemporain. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y en a déjà eu avant du graffiti?
Contemporain, ça veut dire ça commence quand, ça? Je sais pas.
Contemporain, c'est le monde d'aujourd'hui. Ça serait à partir de la fin du 20e siècle,
Ben, ça existe depuis toujours, en fait.
Ah oui?
Oui. Ben, le graffiti, ça existe depuis même les hommes des cavernes. Dans les cavernes, on voyait des peintures de chats, oui. Ces choses-là. Là.
Mais c'est pas considéré comme du graffiti. Ça, c'est considéré comme de la peinture rupestre.
Oui, mais n'empêche que c'était sur un mur dans un espace comme public. On pouvait pas se mettre en contexte dans ce temps-là parce qu'il n'y a pas d'écrit où on sait pas trop ce qui se passait vraiment. Là. Mais ça serait peut-être considéré comme du graffiti.
Oui.
Puis sinon, on peut remonter jusqu'à l'Antiquité, au Moyen-Âge, ces places-là, à Athènes, en Grèce. Eux, il y avait des trucs politiques, des choses comme ça. Le monde écrivait le mécontentement sur les murs.
Ah oui?
Même les prostituées, des fois, là, ils pouvaient écrire comme comme des petits mots de colle à des places pour qu'on puisse aller les rejoindre.
Voyons,
des choses
toi.
Comme ça. Oui, fait que ça existe depuis toujours. Dans les salles de bain, depuis que ça existe, il y a toujours eu des graffitis aussi.
Oui, mais les salles de bain, ça fait pas très longtemps que ça existe.
Non. Mais toutes les grandes là, révolutions, il y a toujours aussi des graffitis, des gens qui ont écrit des trucs politiques. La Rose Blanche, là, dans le temps de l'Allemagne là, nazie, là, les étudiants, là, ils faisaient beaucoup de graffitis partout pour dénoncer le régime, qu'est-ce qui se passait et tout.
Tu vois, on a vraiment l'impression que c'est un phénomène qui est récent, mais en fait, c'est devenu de l'art à un moment donné. C'est sorti juste du phénomène d'information pour devenir une expression.
Aussi, moi, je parle du graffiti moderne.
Oui.
Parce que dans les années 60, à Philadelphie, il y a un monsieur, un jeune homme à cette époque-là, maintenant c'est rendu un monsieur quand même.
Oui, si on parle des années 60, oui.
Il s'appelait Daryl McCray. Ce gars-là, il avait fait, comment il appelait ça? Il appelait ça, dans le fond, l'école pour les bombes. Là.
OK.
Toute sa vie, puis à un moment donné, il était relâché comme dans l'école publique, entre parenthèses.
OK.
Puis à ce moment-là, lui, il a fait une rencontre extraordinaire qui a changé sa vie. Il est tombé en amour avec une fille.
OK. C'est une histoire vraiment rare, ça.
Ouais, vraiment rare. Puis, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé réellement, mais il a vraiment fallu qu'ils ont été séparés.
OK.
Fait que ce garçon-là, en réponse à ça, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est mis à écrire son pseudonyme qu'il avait avec ses amis partout, là, dans le fond, dans la ville. Lui, il écrivait Cornbread, comme à cause que sa mère, elle faisait des petits gâteaux à base de pâte de maïs. C'est ses petits gâteaux préférés. Fait que lui, il écrivait ça. Puis en haut du B, il avait une petite couronne, parce que, tu sais, pour lui, c'était le roi de la ville quand il écrivait ça partout. Bon. Lui,
dans les années 60, à New York, il y a un gars qui a
commencé... Non, pas à New York, à Philadelphie.
À Philadelphie, il y a un gars qui a commencé à écrire son nom
partout pour que la fille ne l'oublie pas, en fait.
Son surnom.
Oui, partout, il écrivait son nom, ses ponts, partout où est-ce qu'il allait. Fait qu'à un moment donné, la fille, elle pouvait revoir son nom un peu partout, savoir qu'il l'oublie
jamais. Mais c'est une histoire incroyablement romantique.
Oui, c'est beau, hein?
Oui. Ça serait le début du...
Ben, ce gars-là, c'est comme considéré comme le parrain, comme le père du graffiti moderne, comme on connaît aujourd'hui avec les tags, ces choses-là. C'est comme le premier tag, le tag qui est une signature. En fait, ça serait vraiment comme lui. Puis même en 1971, ce gars-là, il y avait du monde qui pensait qu'il était mort, qui ont commencé à dire qu'il était mort et tout, comme peut-être pour, comme je sais pas, le monde qui commençait à avoir comme du fame, là, il commençait à être populaire. Fait que les gens ont dit, il est mort, Fait qu'il est rentré dans un zoo illégalement, puis il est allé écrire sur le côté d'un éléphant dans le zoo de Philadelphie qu'il n'était pas mort.
Fait que là, on était sûr que c'était lui parce que son tag ou sa signature était reconnaissable.
Il a écrit sa signature en écrivant non, je suis vivant avec son tag. Il a écrit ça.
Tu peux nous faire la différence entre tag et graffiti? Est-ce qu'il y a une différence entre tag et graffiti?
Ben, en fait, le graffiti, c'est ce qui englobe tout, là.
OK.
Puis, parce que le graffiti, la base du graffiti, c'est réellement le tag, là, la signature.
Oui, c'est ça. C'est une signature personnelle.
Oui, c'est ça. Fait que c'est un pseudonyme. Comme à New York, justement, après Philadelphie, c'est comme vraiment là qu'on a retracé vraiment les premières fois des gens qui écrivaient le nom partout. Après, comme le plus zélé qu'il y a eu dans les débuts, il s'appelait Taki 183 à New York.
Okay.
Lui, ça a été vraiment comme un des premiers à New York là, qui s'est mis à faire des tags et des graffitis. Puis lui, Taki, c'était comme le pseudonyme de Démétrius en grec. Fait qu'il prenait Taki. Puis 183, c'est son numéro de rue. Fait que lui, il a pris ça de même. Puis c'est mis à l'écrire partout dans les années 60.
Et pourquoi? Il est plus connu qu'un autre parce qu'il était au début peut-être du mouvement.
C'est le seul à écrire son nom partout. Après, il y en a plein d'autres qui ont commencé à écrire le nom aussi. Là. Il y en a quelques d'autres là, qui ont écrit le nom. Mais lui, c'est vraiment le plus zélé. En 71, le New York Times, tellement qu'il voyait son nom partout, ils l'ont interviewé puis ils ont fait un article sur lui, en fait, là, à cause que...
Ce qui différencie peut-être le mouvement contemporain du graffiti, c'est l'idée de l'écrire partout. Je veux dire, quand on parlait de l'Antiquité, puis ça, les gens écrivaient des affaires dans les salles de bain, mais ils n'écrivaient pas la même affaire partout. Alors que là, on dirait que c'est l'idée de d'écrire le même signe sur le plus de surface possible.
Oui, bien, il y a comme une reconnaissance. En fait, là, bon, on va déroger du plan.
Oui, je suis terrible pour ça, moi.
Ben, je vois bien ça. J'avais lu un truc, justement, aujourd'hui, j'ai lu un truc là, vraiment intéressant. Là. Il y avait un gars, dans le temps, un journaliste, là. Puis il avait vu un jeune, là, justement, dans les années 60-70, à New York, il était assis, il regardait comme les trams de métro sont vraiment hautes, là, dans le temps, puis à New York, sûrement encore aujourd'hui, là, je suis jamais allé, en fait. Puis là, tu voyais les trains passer, il dit, qu'est-ce que tu fais là, toi? Il dit, ben j'attends que, comme mon tag, ou que, tu sais, mon flop, ou que, tu sais, mes graffitis que j'ai fait la veille sur le train passent, là. Puis il attendait comme son tour, là. Puis il attendait, puis lui, ça le sortait de l'anonymat, puis, tu sais, c'est vraiment extraordinaire. Puis dans les années quoi, 1400, les premiers peintres qui ont commencé à poser leur signature dans le bas, là, dans ce temps-là, là, eux, là, leur condition de vie était terrible, là, les peintres. Là, ils ne pouvaient pas écrire le nom nulle part. C'est quasiment des sous-employés, des trucs comme ça. C'est de la merde d'être peintre là, en 1400, on s'entend. Là.
Ah, mais j'en ai aucune idée.
Il y en a un, là, comment il s'appelait déjà, j'avais écrit à quel point. En tout cas, un des premiers qui écrit sa signature en bas de la peinture pour dire oui, moi j'étais là avec comme les deux mariés richissimes.
Okay, Lord, parce que les peintres
quoi.
Étaient anonymes au Moyen Âge, ils signaient pas leur peinture. Ok, mais tu sais, moi j'ai pas fait des histoires de l'art, je le sais pas.
Il y en a un que lui au début il a commencé à mettre la signature pour dire oui, moi j'étais là. Fait que il y a comme ça vient s'en rejoindre un peu
un
à
lien,
quelque part.
Là,
ouais. Fait que là, les jeunes du ghetto qui écrivaient le nom partout, qui mettaient ses trams de métro, qui se promenaient partout, ben, ils sortaient de l'anonymat eux aussi à un moment donné.
Oui,
ça, leur montait,
oui,
moi,
ça, on va revenir à ton plan. Ça, c'est un fait intéressant. Ouais. Quand le graffiti est sorti du mur des édifices pour aller sur les trains ou sur des objets mouvants.
C'est comme une suite logique là, à cause qu'eux, ils le mettaient partout, là, partout où est-ce qu'ils allaient, ils écrivaient ses murs partout. Puis à un moment donné, ben, crime, pourquoi pas le faire sur les métros? Ça bouge. Fait que moi, j'aurais pu à me déplacer comme partout pour le faire. J'avais à écrire une place, puis ça va se déplacer partout, puis tout le monde va le voir. Fait que ça, c'est vraiment là, comme c'était une révélation pour eux. Puis après ça, ça a vraiment explosé, puis tout le monde s'est mis en faire. Là, c'était vraiment incroyable.
Fait que le graffiti, c'est véritablement d'abord un désir d'exprimer son existence, c'est de dire « je suis là ».
C'est comme si un peu on était des serpents venimeux qui avaient besoin de cracher un peu de venin. Là, ça...
Ah, OK! Ah,
non, mais la plupart, tu sais, je sais pas comment expliquer ça. Ben oui, c'est vraiment sortir de l'anonymat. Puis aussi, on fait ça vraiment. On fait ça, tu sais, je parle.
C'est pas moi qui le dis, là.
Mais
on exclut la personne qui parle.
Voilà, merci. Mais non, les gens font vraiment beaucoup ça pour aussi avoir une reconnaissance de ses pairs comme en art, dans n'importe quel autre domaine de la musique, n'importe quoi. Fait que c'est ça qui choque ou qui dérange un peu les gens. Ben, au début, les tags. Au tout début, là, comme quand je parlais de Taki et tout, tout est vraiment, là, c'était écrit T-A-K-I. Il fallait que ce soit lisible.
OK.
Puis tranquillement, pas vite, le monde a commencé à mettre du style, mettre des faux 3D, faire un wild style, un style sauvage, où c'était complètement illisible. Puis tranquillement, pas vite, c'est toujours... Maintenant, c'est, vous voyez les tags dans les rues, la plupart des gens ne sont pas capables de les lire.
Non.
Mais les personnes qui font du graffiti, eux, sont capables de les lire. Fait que les gens, ils font vraiment
c'est comme
ça
si
entre eux.
C'est ça, c'est devenu une sous-culture, c'est devenu...
comme une culture, le monde font ça pour une reconnaissance de leur père face à entre eux.
Okay.
Il y a une hiérarchie dans le graffiti aussi, un peu, on pourrait dire.
Ah oui?
Oh oui, fait que quand on commence, les jeunes qui commencent à faire du graffiti ou à faire des tags, on les appelle les toys, des petits jouets, là, c'est comme un pouf. Dans l'armée, on dit des poufs, là, on peut mettre le pied dessus, là, t'sais. Puis tandis qu'en haut de l'échelle, ben, t'as le king, t'sais. Lui, ça fait des années qu'il fait ça, puis...
Et comment le passe-t-on de toy à king?
Ben, c'est avec la pratique, en prenant des risques, en faisant de plus en plus.
C'est intéressant.
Parle-moi
de ça.
Ça se gagne avec la reconnaissance des parts.
Donc, le risque, c'est-à-dire l'endroit difficile d'accès ou...
Plus tu vas faire quelque chose, un endroit difficile d'accès, t'as plus de chances que les autres fassent « wow ».
Que t'as de la reconnaissance par les pairs.
Ben oui.
Ah, attendez, je pense que le micro n'était pas allumé. Reprends-toi, David.
Non, trop tard.
Ben David, qu'est-ce que tu voulais dire?
Tu veux vandaliser mon entrevue, toi?
Je voulais savoir si quelqu'un allait peindre sur une montgolfière, s'il était sacré empereur direct. Ou...
Mon Dieu Seigneur, il faudrait qu'il y aurait quelque chose à faire, je pense, David. Hein?
C'est parce que sur une montgolfière...
Non, il va être sacré grand dragon impérial.
Grand dragon. Est-ce que tu peux nous parler est-ce qu'il y a une culture particulière au Québec ou au Canada du tag qui se distingue des autres?
Pas nécessairement. Le Montréal, ça a été reconnu longtemps, là, même encore aujourd'hui, comme là, on déroge un peu du graffiti, là, on va peut-être parler du street art, là, comme là, j'englobe le pochoir là-dedans, l'affichage.
Mais ça, c'est autre chose. Là.
Ben, c'est autre chose, mais Montréal, t'es quand même reconnu pour ça, là, pour comme une effervescence, puis vraiment une diversité. Ça fait longtemps, depuis les années 80, il y a quand même beaucoup de graffiti à Montréal, que ce soit comme les writers, comme on disait, là, les graffiteurs, là, les tags, ces choses-là, mais il y avait beaucoup aussi de pochoristes, du monde qui font des pochoirs ou des choses comme ça.
Des pochoiristes.
Des gens qui font du pochoir, des gens qui font du collage, l'affichage avec des affiches, des choses comme ça. Fait que c'était reconnu mondialement pour ça quand même, Montréal. On n'est pas loin de New York non plus, hein. On est vraiment à quelques heures de New York. comparativement, mettons, à Paris ou à Londres, des places comme ça.
Les trains. C'est pas ça qui distingue le Canada du reste des...
Ben, pas le Canada, mais oui, le Canada, on est vraiment... Le Québec, puis le Canada en général, on est quand même reconnu aussi pour nos trains. Le moins maintenant à Québec, à cause que c'est rendu beaucoup plus sécurisé, mettons. Mais il y a peut-être 10 ans, là, on pouvait aller, les gens pouvaient aller faire, là, aller peindre des trains là, en plein après-midi, un samedi après-midi, là, puis passer la journée là avec la bière, s'amener un petit barbecue, puis on peint des trains tout l'après-midi. T'sais. Puis c'était reconnu pour ça, la tranquillité, pas de stress, on fait nos choses. Puis
parce que c'était pas surveillé, les gares de triage étaient plus ou moins surveillés.
Non, ça, c'est plus ou moins surveillé, puis tu sais, c'était correct.
Puis ça avait l'avantage d'être vu sur une grande distance aussi à ce moment-là.
Les trains du Québec, mettons, ils vont jusqu'en Colombie-Britannique, après, ils descendent toute la côte ouest américaine.
Aux États-Unis aussi.
Aux États-Unis après, ils peuvent remonter, aller sa côte est, descendre aussi. Ouais. Fait que c'est vraiment. C'est ça qui est le fun, là, quand vous verrez des trains passer maintenant, regardez, vous allez pouvoir peut-être reconnaître des trucs des gens qui viennent de Los Angeles ou de n'importe où. Là,
mais il faut connaître déjà le style de la personne ou le tag de la personne pour le reconnaître.
Ben oui.
Il faut faire partie de cette culture-là, finalement.
Pas nécessairement. Si on s'intéresse à ça, puis on se met à regarder, on va voir qu'à un moment donné, il y a des choses qui reviennent. Puis là, si on s'intéresse réellement à ça, on peut aller voir sur Internet par la suite. Ouais. Là, c'est magique. Là.
C'est la question d'être observateur aussi.
Ouais.
Est-ce qu'il y a des écoles de pensée à l'intérieur du mouvement des taggeurs? Est-ce qu'il y a
des... Avec toute l'histoire que je faisais de New York, les tags, les tags, à un moment donné, tu fais toujours le même tag, il change, il prend du volume, il grossit un peu plus. Là, on appelle ça un flop ou un throw-up. C'est comme un tag qui se fait en peut-être deux opérations au lieu juste. T'sais, un tag, ça prend 2-3 secondes à faire. C'est une signature au crayon feuille ou à la canerie au sol qu'on fait. Mais si on fait quelque chose d'un peu plus gros, un peu plus développé, deux couleurs, juste un petit peu plus gros, là, on appelle ça un flop.
Okay.
Puis après ça, on peut avoir la pièce ou la fresque. Là, on parle de quoi de beaucoup plus élaboré, de plusieurs couleurs avec des détails, une préparation à l'avance. T'sais, au début des années, je commence 70-80, ben, années 70 au début, les gens comme Taki, l'autre, là, Cornbread, je parlais de Philadelphie, ils étaient seuls, ils faisaient le truc à eux. Mais ça aussi, ça l'avait évolué. Là, t'sais, l'individualité, ben, c'est comme échangé pour des groupes, il y a des crews, des gens sont formés, sont mis ensemble. À New York, il y avait déjà beaucoup de gangs, en fait, c'est déjà là. Mais là, le monde sont formés vraiment pour faire des crews, pour écrire. La répression l'augmentait en même temps que la popularité de la chose. Fait que c'était beaucoup plus difficile à dépeindre des métros, des trains dans le temps à New York. Fait que les gens se mettaient en bande. Fait qu'il n'y avait plus la spontanéité primitive qu'il pouvait y avoir avant.
Okay.
On était vraiment plus dans la préméditation. Et on faisait des plans par où qu'on allait passer, des personnes qui allaient juste surveiller. D'autres, tu sais, c'était rendu quand même quelque chose aussi. Là. Puis ça, ça a évolué. Fait que comme les styles ont évolué aussi. Fait que là, on est rendu avec des styles bulles. Des styles un peu chewing-gum ou vraiment plus comme des bulles. Sinon, il y a des lettres plus lifestyle que c'est fait exprès, que ce soit illisible. Il y a des styles.
Et d'où ça vient, toute cette évolution-là dans le style?
Parce qu'à un moment donné, quand tu fais tout le temps la même alphabet de A à Z, tout le temps pareil, comme on voit aujourd'hui, à un moment donné, t'as assez de twister un petit peu ton A. Fait que là, à force de le twister, tu le rends illisible. Fait que tu mets toutes tes lettres illisibles ensemble, puis toi, tu crées une cohésion là-dedans. Fait que ça vient qu'à créer comme quelque chose en soi. Puis ça, on appelle ça un wild style. C'est un style sauvage illisible. Puis il y a des styles aussi ignorants, là, tu sais, que c'est vraiment comme... on dirait que c'est un enfant de 5 ans qui a fait ça, mais il y a énormément de techniques puis de recherches en arrière de ça.
C'est tout un univers. Hein?
Ben oui, il y a le block layers aussi, un style vraiment concentré sur des lettres en bloc, où est-ce qu'on travaille des formes rectangulaires, carrées, qui sont vraiment bien au rouleau, tu peux faire ça plus gros. Il y a des gens qui sont beaucoup plus dans le hardcore que eux, c'est tout brisé, on fait des tags seulement, on fait des flops seulement, on fait pas de pièces élaborées.
On fait signe qu'on n'a plus de temps.
On n'a plus de temps. Oh.
Ben écoute, merci beaucoup Will, moi ça m'a appris beaucoup de choses, parce qu'évidemment je suis quelqu'un... Non mais parce que moi je suis complètement
ignorante. J'aurais pas parlé plus.
Oui, ben il va falloir que tu reviennes à ce moment-là. Oh. Merci beaucoup Will, merci à tout le monde.
Ça me fait plaisir.
Merci à Gab Paquette pour la musique thème, merci à David, notre libraire, et pour ses citations, et pour... Parce qu'il est notre hôte.
Une dédicace aussi.
Une dédicace?
Ouais.
Oui.
À Fernand Poirier.
Oui, non. Il me déconcentre. Merci à mes invités, Patrick Desbiens, Alexandrine Rodrigue, Pierre-Antoine Tanguay du groupe Sweetgrass, ainsi que Will Dion, le Malcommode.
Merci, Catherine.
À mon équipe, Anaël à la mise en onde et à Bic Nick, le producteur de l'émission et le grand Manitou du site web Radio Fiat Lux. C'était La Voix de la librairie, Québec.